Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression pour vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partage d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, on parle de la souffrance psychique des enfants et des jeunes, avec le pédopsychiatre et directeur de recherche Bruno Faïssard. Dans son livre « Comment soigner la souffrance psychique des enfants et des jeunes » aux éditions Odile Jacob, Bruno Faïssard nous éclaire sur la spécificité de la psychiatrie pour enfants en nous expliquant à l'aide d'exemples concrets ce qu'elle soigne et avec quels outils. Dans ce podcast, il partage son expérience, nous explique son métier de pédopsychiatre, les différences avec les psychologues cliniciens et les psychothérapeutes, ainsi que sa posture quant aux prescriptions médicamenteuses chez l'enfant et l'adolescent. Bonjour Bruno Faïssard.
Bonjour.
Alors Bruno Faïssard, vous êtes pédopsychiatre, professeur de santé publique, directeur d'un centre de recherche INSERM en épidémiologie, membre de l'Académie nationale de médecine et ancien président de l'Association internationale de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Alors Bruno Faïssard, en quoi consiste votre métier de pédopsychiatre et quelle est la différence avec les psychologues cliniciens et les psychothérapeutes ?
Oui, alors... Beaucoup de personnes se posent cette question. Un pédopsychiatre, c'est d'abord un médecin. Et en fait, on n'imagine pas qu'un médecin... D'abord, c'est long, les études de médecine, tout le monde est au courant, à peu près une dizaine d'années. C'est un apprentissage qui ressemble un peu à l'apprentissage d'un artisan, puisqu'on va à l'hôpital tous les matins, on regarde comment font nos aînés, on apprend à parler aux patients, on a des gardes aux urgences. Tout ça, les psychologues ne l'ont pas. A contrario, les psychologues ont une formation académique de psychologie, beaucoup plus importante que les psychiatres. Donc on voit, finalement, le métier de psychiatre, c'est un métier plus concret, comme le métier de médecin. Et puis, bien sûr, le psychiatre va voir des patients plus graves. Aux urgences, il va voir des états d'agitation, des patients qui ont fait une tentative de suicide, alors que le psychologue va s'intéresser aux problèmes des humains en général dans leur vie, donc des questionnements dans leur vie de couple, dans quelle mesure on peut se réaliser dans la vie ou pas. Vous voyez, toutes ces questions-là, ce sont des questions de psychologie. Le psychiatre, ce n'est pas son job. Le psychiatre, c'est de s'occuper de la souffrance des gens quand c'est une souffrance psychique. Alors bien sûr, il y a une zone où on se rejoint, il y a une zone où quand les sujets vont un peu mal, ils peuvent aller voir un psychologue, et puis quand c'est un peu plus, alors le psychiatre peut être intéressé.
D'accord. Alors à quoi ça ressemble une psychothérapie en pratique ? C'est comme ça que ça s'appelle, une psychothérapie quand on vient vous voir ?
Alors, c'est une bonne question parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Donc, le psychiatre est un médecin, et quand il reçoit un patient, il reçoit un patient comme le fait un médecin, sauf qu'on ne va pas palper le foie ou la rate, parce que, jusqu'à preuve du contraire, les problèmes psychiatriques, ça n'a pas grand-chose à voir avec le foie ou la rate. Donc, nous, on va essentiellement parler. D'ailleurs, les médecins parlent avec leurs patients. Si vous avez une crise d'asthme, on va vous demander, mais est-ce que vous êtes exposé à des chats, est-ce que vous allez à la montagne, etc. Donc, nous, on va faire pareil, on va dire, ça ne va pas en ce moment, vous avez fait une tentative de suicide, d'accord, mais vous vivez en couple, oui, non, vous avez des enfants, vous avez un travail, quel est ce travail, est-ce que vous êtes bien dans votre travail? On va essayer de rentrer dans la vie des gens et puis de voir quels sont leurs symptômes, est-ce qu'ils ont des problèmes de sommeil, est-ce qu'ils mangent, est-ce que quand ils vont au théâtre ou au cinéma, est-ce qu'ils accrochent à ce qu'ils voient ou est-ce qu'ils n'ont plus goût à rien? Vous voyez, on cherche des symptômes. Mais ce sont des symptômes psychiques, alors que le pneumologue ou le dermatologue, ce sont des symptômes somatiques, c'est-à-dire du corps.
D'accord. Justement, c'est une belle transition, parce que dans votre livre, vous dénoncez le dualisme corps et esprit dans la sphère médicale et vous assimilez la souffrance psychique à une maladie de l'âme. Vous associez les maux du corps aux maux de l'esprit. Pourquoi ?
Alors, En fait, tout vient de l'étymologie. Psychiatrie, en fait, c'est la discipline médicale qui s'occupe de l'âme. Psy, en grec, c'est l'âme. Alors, ce qui est curieux, c'est que, en fait, toutes les cultures, et depuis toujours, les humains considèrent qu'on a une vie intérieure et qu'on a un corps. Voilà. Et c'est un peu toujours un mystère. Et donc, ben, en médecine, on a décidé qu'en parallèle, il y avait des médecins qui allaient s'occuper du corps et des médecins qui allaient s'occuper de l'âme. Même si, bien sûr, quelqu'un qui a un cancer du poumon, ben, il souffre aussi dans son âme. Hein, et quelqu'un qui a une dépression, souvent, ben, il a mal un peu partout, y compris dans des muscles. Il peut... Alors, après, est-ce que la dépression donne des pathologies comme la grippe, le cancer, etc. C'est discuté et vraisemblablement pas trop. Mais un dépressif ou un anxieux, par exemple un anxieux a des difficultés pour respirer. Respirer, c'est le corps. Donc il y a une zone de contact entre l'âme et le corps, mais quand même, pour les humains, ben, force est de constater que quand on vit, on a l'impression que il y a quelque chose d'immatériel dans lequel on est, hein, on appelle ça l'esprit, et puis qu'on peut toucher les choses et que c'est matériel, et qu'on peut souffrir dans son corps quand on a une fracture, et puis on peut souffrir dans son âme quand on a perdu un être cher. Voilà, et comme les médecins s'occupent de la souffrance des gens, et qu'il y a une souffrance dans l'âme et une souffrance dans le corps, ben on a dit, il y aura certains médecins, ben ils vont s'occuper des souffrances de l'âme, et cela on les appelle psychiatres. Mais c'est un tout petit peu artificiel, voilà. C'est une réalité de l'existence, mais quand on gratte, hein, et c'est, tous les philosophes l'ont bien compris, hein, quand on gratte, ben c'est compliqué de vraiment séparer l'âme et le corps.
D'accord. Donc quand on vient chez vous, Bruno Falissard, comment ça se passe, une consultation, très concrètement, quel est votre... Parce que j'ai bien compris que la pratique était personnelle aux praticiens.
Oui, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, mais c'est même assez propre à la médecine en général. Hein. Vous avez dû remarquer que tous les médecins n'exercent pas leur métier exactement de la même façon. Mmh. Alors, d'abord, nous, c'est de la pédopsychiatrie. Oui. Donc, nous, on accueille des familles. Et donc, ça, c'est un gros changement par rapport à la psychiatrie adulte. C'est-à-dire que moi, à ma consultation, j'ai en général un papa, une maman, un enfant. Parfois, il n'y a que la maman, mais de plus en plus, on a les papas aussi. Et parfois, on a des frères et sœurs en plus. Donc, ça fait beaucoup de monde. Souvent, c'est très animé. Donc, on n'a pas, en fait, un patient. On a une famille. Et cette famille vient parce qu'un de ses membres, qui est un enfant, on dit qu'il va mal. Parce qu'une particularité de la psychiatrie pour enfants, c'est qu'en fait, le plus souvent, quand on demande à l'enfant, « Mais tu viens me voir pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ben, il ne sait pas. Il ne sait pas, lui, le plus souvent, il trouve que ça va, mais c'est les enseignants, c'est les parents qui disent « Ah ben non, ça ne va pas », ou il est trop agité, ou il ne dort pas, ou il fait pipi au lit, ou etc. quoi. Donc vous voyez, là, il y a une vraie différence par rapport à la psychiatrie pour adultes. En fait, la notion de patient n'est pas aussi claire. On n'a pas quelqu'un qui souffre et qui vient voir un soignant pour améliorer sa souffrance. C'est une famille qui dit « notre enfant va mal ». Alors parfois, l'enfant aussi dit « je vais mal », mais souvent, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, on va faire parler tout ce monde. Hein, on va faire parler les parents en disant ben, « donc vous dites qu'il va mal, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça remonte à quand? Et quand il était petit, comment il allait? Est-ce que quand il était bébé, il mangeait bien, pas bien? Est-ce que... Et puis à l'école maternelle, que vous en disiez les instituteurs, les institutrices? À l'école primaire, est-ce qu'il a appris à lire, à écrire facilement? Est-ce qu'il avait des copains? Vous voyez, c'est finalement assez banal. Hein. Et petit à petit, en posant toutes ces questions, on arrive à se faire une idée de la vie de la famille, de la vie de cet enfant. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est malheureux? Quels sont ses soucis? Et on va rattacher tout ça à notre grille de lecture, qui est notre grille de lecture pédopsychiatrique. Donc on va dire, ben, il a des attaques de panique, il a une dépression, il a un trouble obsessionnel compulsif, elle a une anorexie mentale, vous voyez. Et puis, grâce à ça, on va pouvoir proposer des traitements qui, en général, ne sont pas des traitements médicamenteux. C'est une particularité de la pédopsychiatrie. On prescrit beaucoup moins de médicaments que nos collègues psychiatres pour adultes, en particulier en France.
D'accord. Eh bien, écoutez, justement, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée dans votre bouquin, c'est celle tirée d'un patient adulte sous antidépresseur qui, dans le cadre d'une étude clinique sur la pertinence de l'utilisation de ces derniers, fait la déclaration suivante. Je peux entendre l'angoisse crier quelque part en moi, mais elle est étouffée, comme si quelqu'un avait mis en place une fenêtre insonorisée. Quelle est votre posture, vous, par rapport effectivement à cette, peut-être en France, prescription et dans le monde, puisqu'au Canada et aux États-Unis, la population souffre de prescriptions faciles d'opium, d'opioïdes, qui créent des addictions et les dégâts qu'on connaît. Oui. Vous, en France, donc j'ai bien compris, chez l'enfant, vous mettez le pied sur le frein.
Oui.
Quid de toutes les pathologies liées au TDAH, dont on parle beaucoup.
Oui.
Et puis, chez l'adolescent, chez l'adulte, est-ce que,
Alors, c'est une question très grave, très importante. Et plus compliquée que ça, parce qu'on pourrait dire, les médicaments, c'est pas bien, il faut plus en prescrire. Le problème, c'est qu'on a certains patients qui sont très graves, ils souffrent tellement qu'on ne peut pas faire autrement que de prescrire un médicament. Comme quand vous avez une colique néphrétique, vous souffrez tellement qu'on va vous donner un anti-inflammatoire en perfusion parce qu'on ne peut pas laisser les gens souffrir. Et de la même façon, les opioïdes, oui, aux États-Unis en ce moment, il y a plus de morts par overdose de médicaments opiacés que de morts par overdose d'héroïne. Mais de notre côté, des gens qui ont un cancer métastatique, on ne peut pas les laisser souffrir, on va leur donner des opiacés. Vous voyez, on ne peut pas dire que c'est tout bien ou tout mal. Donc, il y a des médicaments en psychiatrie qui sont utiles, et même en pédopsychiatrie, il y a des médicaments qui sont utiles. Vous parlez de l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Alors, si on dit ça, on dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est des enfants qui bougent trop et qui ont du mal à se concentrer. » Ça n'est pas de la psychiatrie, c'est juste qu'ils sont mal élevés, c'est juste qu'ils sont comme ça. Et puis, sauf qu'on n'imagine pas à quel point ça peut prendre des proportions incroyables. C'est-à-dire, le déficit de l'attention est tel que l'enfant va traverser la route sans faire attention. Et vous imaginez ce qui peut se passer. En classe, il ne peut pas rester assis plus de 3 secondes, sans arrêt, il se lève. Vous imaginez une classe comme ça, l'enseignant, il craque, après, c'est l'enfant qui en subit les conséquences, parce qu'il voit que tout le monde le déteste. Et donc, au bout de plusieurs années, ils sont déprimés, ils consomment des toxiques, vous voyez, et du cannabis, et voire ou de la cocaïne, etc. Donc, c'est grave. Donc, quand c'est vraiment grave, oui, il y a des médicaments, effectivement, des stimulants qui peuvent être utilisés. Alors, on pourrait dire, il y a des problèmes graves qu'on traite avec des médicaments et des psychothérapies. Le problème est réglé. Sauf que, il y a un continuum, c'est-à-dire qu'il y a des enfants très graves, il y a des enfants un tout petit peu moins graves, Et alors, la question, c'est à partir de quand on soigne un enfant qui va vraiment très mal ou à partir de quand on donne un médicament à un enfant juste parce qu'il a tendance à être un peu perturbateur. Et alors là, vous voyez où on glisse, c'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans une société où le médicament est utilisé comme un régulateur social. Et alors ça, bien sûr, c'est la catastrophe absolue. Et donc, si on rentre dans les chiffres, vous voyez, aux États-Unis, en ce moment, 10% des garçons de 10 ans prennent un médicament stimulant pour gérer leur hyperactivité. 10% des garçons de 10 ans. En France, c'est 1%. Donc 1%, ce n'est pas une catastrophe. 10%, je pense que c'est un vrai problème de société. Alors, vous me direz, c'est les États-Unis, mais sauf qu'en France, le niveau de prescription augmente tout doucement. Comme il arrive régulièrement qu'on suive la mode des États-Unis avec quelques années de retard, on peut se poser la question aujourd'hui, en anticipant, où va-t-on ?
Et donc, où va-t-on ?
Alors, où va-t-on ? Je crois que L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est qu'on veut que nos enfants ne souffrent pas du tout, qu'ils soient bien, et vu de loin, ça a l'air extraordinaire comme, comme souhait. Mais en faisant ça, eh bien, on risque de dire, ben, ah, mon enfant joue un peu trop aux jeux vidéo, oh là là, alors ça va pas, il est addict aux jeux vidéo, puisque j'ai entendu à la télé qu'il y avait une addiction aux jeux vidéo. Ben, s'il est addict, je vais aller voir un psychiatre pour soigner son addiction aux jeux vidéo. Alors, attention, il ne faut pas tout psychiatriser parce que la psychiatrie, c'est un peu grave quand même. Vous voyez, il y a une charge symbolique forte dans la psychiatrie. Le psychiatre, pour adulte, il peut enfermer les gens dans les hôpitaux psychiatriques. Vous voyez, c'est pas... Donc, il faut garder un peu raison et... réaliser que il y a des enfants en grande souffrance et c'est terrible. Je vois par exemple dans mon sud-ouest natal, ben j'apprends par ma sœur qui travaille à l'éducation nationale, ben qu'il y a une adolescente, ça fait 3 ans qu'elle va pas à l'école parce qu'elle a des attaques de panique, c'est-à-dire si elle sort de chez elle, elle est morte de peur, elle est terrorisée et donc elle peut plus sortir. C'est une adolescente qui est au collège, elle ne peut plus sortir de chez elle depuis 3 ans. Vous imaginez la vie que c'est une maladie grave. Et donc, il faut la prendre en charge avec une thérapie cognitivo-comportementale, avec un antidépresseur. Parce que, comme vous le disiez, même s'ils ont des effets indésirables, c'est réel, mais ça va la protéger contre cette anxiété qui l'envahit complètement. Et c'est un crime de pas, qu'elle ne soit pas soignée. D'un autre côté... Vous avez des enfants, vous avez des adolescents qui ont des passages un peu avides, qui se fâchent avec leurs parents, qui se fâchent avec leurs copains. Ben, c'est la vie, quoi. Voilà. C'est la vie. Il n'y a pas besoin de dire que c'est de la psychiatrie. Vous voyez, dans la vie, il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des moments où les couples se fâchent. Ce n'est pas parce qu'ils se fâchent qu'ils doivent forcément faire une thérapie de couple. Peut-être, ça les regarde. Hein. Mais si vous voulez, le conflit, la tension, le fait qu'on a des moments où ça va moins bien, ben c'est la vie. C'est la vie.
Et vous dites dans votre livre qu'un bon ami peut suffire, parfois, une belle oreille, une belle écoute.
Mais bien sûr. Alors, dans notre jargon, on appelle ça le support social, qui est quelque chose de très, très important, mais, et c'est même scientifique, hein, c'est-à-dire que la qualité des relations que vous avez avec votre environnement, c'est-à-dire votre famille, vos collègues, vos camarades de classe quand c'est des enfants, est un facteur prédictif de ne pas avoir d'addiction et de ne pas faire de tentative de suicide. Donc vous voyez, c'est pas du tout du baratin, hein. Avoir autour de soi des gens qui sont prêts à vous écouter avec bienveillance, ce qui n'est pas si simple que ça, mais ben ça aide. Alors après, bien sûr, ça peut être plus compliqué en pratique, parce que quand on a un adolescent qui commence à aller mal, ben, même si vous êtes sa mère ou son père, vous allez dire, ben écoute, on va en parler, mais peut-être que justement, lui, il n'aura pas envie de vous en parler parce que vous êtes ses parents. Voilà. À l'adolescence, les choses deviennent un tout petit peu plus compliquées. Donc, un oncle, une tante, ça peut marcher, même des grands-parents, parfois. Hein. Il y a des enseignants. Et puis parfois, on a l'impression que, oulala, que c'est compliqué, quoi, que ça ne va pas. Et si vous voulez, à ce moment-là, il faut se dire, oh là, mais là, ça ne va pas suffire. Ce n'est pas juste des bons mots qu'on doit proposer aux autres dans la vie. Hein. Mais parfois, on sent que ça nous échappe, qu'on ne comprend pas, que ça fait même un peu peur. Et bien, dans ces cas-là, il faut aller consulter. Alors, consulter qui ? Je pense qu'en première intention, on peut aller voir un psychologue, clinicien. Normalement, ils sont là pour ça. Alors, bien sûr, le problème numéro un en France, c'est que ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Voilà.
Alors que le psychiatre ?
Alors que le psychiatre, c'est un médecin, donc il est remboursé par la Sécurité sociale. D'accord. Mais il y a peu de psychiatres pour enfants et adolescents en France. Il y en a 600. C'est peu. Il y a même, je crois, 25 départements où il n'y a pas de psychiatre pour enfants installé en libéral.
Oui. D'ailleurs, dans votre livre, vous expliquez bien effectivement la charge en termes de
oui,
rendez-vous.
Oui. Ben oui, il y a des listes d'attente facilement de un an. Hein. Oui. C'est un an, ben oui, il y a 600 psychiatres pour enfants et adolescents, 10 000 psychiatres pour adultes, vous voyez, alors qu'un quart, un tiers de la population, c'est des enfants. Donc il y a un vrai problème. D'ailleurs, on peut se demander d'où ça vient. Pourquoi c'est comme ça? Et donc, du coup, on a vraiment besoin des psychologues. On a vraiment besoin des psychologues pour s'occuper des enfants et des adolescents. Alors la sécurité sociale, vous voyez comme la société est compliquée. La sécurité sociale fait une expérimentation en ce moment pour proposer sur la décision d'un médecin généraliste de rembourser une dizaine de séances chez les psychologues, mais pas pour les adolescents qui ont les problèmes les plus importants. Parce que ça fait peur. Ça fait peur. Et donc du coup, ben, ceux qui en ont le plus besoin n'y ont pas droit. C'est complètement fou.
D'accord. Est-ce que vous auriez un dernier mot à ajouter à nos auditeurs lecteurs sur votre intention quant à l'écriture de votre livre, Soigner la souffrance psychique des enfants? Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre?
Alors, ben, comme vous le disiez en introduction, pendant 4 ans, j'ai été président de l'Association internationale de psychiatrie pour enfants et d'adolescents. Du coup, j'ai voyagé dans plein de pays. Et je me suis rendu compte qu'on avait tous les mêmes problèmes. Notre spécialité, quand on regarde les chiffres, ben, il y a de nos jours, hein, comme il y a les antibiotiques qui marchent bien, comme en fait les enfants et les adolescents sont en bonne santé, ben, en fait les problèmes de santé des enfants et des adolescents, dans les pays, en particulier dans les pays occidentaux un peu riches, ben, ce sont des problèmes psychiatriques. Voilà, c'est ça qui reste aujourd'hui. Et ça, c'est des chiffres, c'est pas un fantasme, c'est ce que disent les données épidémiologiques. Or, quand on en parle dans les médias ou aux hommes et aux femmes politiques, ben, ils disent « Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est important, et puis rien ne se passe. » Voilà, rien ne se passe. Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction du care, c'est que les gens, en général les femmes, qui s'occupent des autres, en particulier des enfants, donc les infirmières, les professeurs des écoles, etc., ben on considère que c'est juste normal, on devrait même pas les payer, parce que c'est sympa de s'occuper des enfants, c'est pas vraiment un métier, quoi. Hein. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. On considère que c'est pas très sérieux, quoi, de s'occuper des enfants, c'est un truc maternel, c'est naturel, ça ne nécessite pas une expertise, on est doué pour ça, et les femmes sont douées pour ça, et puis voilà, quoi, donc c'est leur job. Et donc, pourquoi ils mettent des médecins? Les médecins, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'années d'études. Qu'est-ce que les médecins ont à faire là-dedans? Et on ne voit pas, en fait, que c'est juste compliqué. Faire des entretiens cliniques avec des enfants, en fait, c'est un vrai métier. Quand un enfant va mal, arriver à lui faire dire ce qui va mal, ben, c'est un vrai métier. Ça demande des années de pratique pour établir un lien. Et pareil pour une famille, vous avez des secrets dans des familles, les parents ne veulent pas dire des choses, etc. Or, ces choses-là, en fait, c'est elles qui ont un impact fort sur la vie de l'enfant, et donc vous devez apprendre à tisser des liens avec les familles pour qu'elles puissent se sentir libres de vous parler. Et donc, ben, c'est une expertise, et comme toutes les expertises, ben, ça coûte un peu cher, puisqu'il faut former des gens pendant longtemps. Et moi, mon objectif, c'est qu'il y ait une prise de conscience, éviter cette espèce de clivage où partout, dans les médias, les politiques, les parents disent la santé mentale des enfants, c'est très important. On le dit, mais en fait, on fait pas grand-chose. À part, on va dire, ah ben, on va faire des sorties dans les musées, on va leur montrer des films éducatifs, d'accord, mais quand ils vont vraiment mal, c'est pas ça, hein. Il faut vraiment s'en occuper. Voilà, il faut être lucide.
Eh bien, merci Bruno Falissard pour votre livre et pour votre sagesse. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Soigner la souffrance psychique des enfants, aux éditions Edith Jacob. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis, à bientôt, peut-être.
Avec plaisir.
Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à y mettre des étoiles. Je vous rappelle le titre du livre de Bruno Falissard, « Comment soigner la souffrance psychique des enfants et des jeunes » aux éditions Odile Jacob. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Every.